Chapitre 8. Juillet-août 1967. 1920 dipôles et autant de récepteurs sur leurs pylônes. La 15e rangée était enfin terminée. La radio de Robin faisait encore entendre une nouvelle chanson des Beatles, comme depuis 2 mois. Cette fois, c'était Lucy in the Sky with Diamonds, une chanson très bizarre. On était déjà le 27 juillet et Jocelyn, Robin et Don avaient complété 93,75% de l'installation de l'IPSA. Il ne restait plus qu'une seule rangée à mettre en place. Mais Jocelyn savait qu'avec 15 rangées, soit plus de 1800 dipôles, il était possible de commencer à faire des enregistrements. Elle avait déjà hésité quand ils étaient arrivés à la 14e. Mais il n'y avait alors que 1792 dipôles en place. Et maintenant, elle ne tenait plus en place. Il fallait vraiment valider si toute la chaîne d'acquisition fonctionnait correctement, ne serait-ce que pour vérifier le câblage. Elle avait pris sa décision 10 jours avant. Il mettrait sous tension dès que le dipôle numéro 1920 aurait été connecté. Il ne le resterait ensuite normalement qu'une grosse trentaine de jours de travail pour finir l'installation des 128 éléments restants du radiotélescope, tel qu'il avait été conçu sur le papier, d'après les calculs de Jocelyn. « Bon, vous êtes prêts pour brancher, les gars ?» lança Jocelyn. « Ok pour moi, c'est quand tu veux, » répondit Robin. « Tu peux y aller, » ajouta Don. Jocelyn avait d'abord allumé l'oscillographe qui permettait de contrôler la forme des impulsions électriques qui sortaient des récepteurs, et puis ensuite l'enregistreur qui avait commencé à dérouler son papier en traçant une droite rectiligne. Elle appuya ensuite sur le bouton noir qui déclenchait l'alimentation électrique de l'ensemble du réseau d'antennes, sous l'œil inquiet de ses deux collègues. L'oscillographe commença à tracer des lentes sinusoïdes élégantes, puis les 4 aiguilles de l'enregistreur multipiste se mirent à virevolter chacune indépendamment l'une de l'autre. La 2e aiguille intéressait plus particulièrement Jocelyn. Elle mesurait le signal qui était reçu à la déclinaison de 22 degrés. Jocelyn avait choisi de vérifier le bon fonctionnement de l'IPSA grâce à la détection de l'une des sources radio les plus connues du ciel, la source de la nébuleuse du Crabe, qui se trouvait à 5h31 30 secondes d'ascension droite et à 21 degrés 58 minutes de déclinaison. Elle devait transiter dans le champ de vue de l'IPSA à 17h42. Il fallait encore attendre un peu plus de 10 minutes, mais déjà, les différentes aiguilles qui correspondaient aux déclinaisons 19 degrés, 22 degrés, 25 degrés et 28 degrés semblaient bien montrer que le radiotélescope détectait des sources radio pendant qu'elles transitaient. Les signaux qui étaient tracés sur le papier qui défilaient semblaient correspondre à autre chose qu'à du bruit de fond ou des interférences parasites, même s'il devait y en avoir un certain nombre. Ce qui se passerait sur le 2e canal d'enregistrement à 17h42 serait la preuve que l'IPSA arrive effectivement à détecter des sources radio, ou au moins la source radio de la nébuleuse du Crabe. La nébuleuse du Crabe se situait dans la constellation du Taureau et était le premier objet du catalogue qu'avait construit Charles Messier au XVIIIe siècle. On l'appelait donc M1. On comprit au début des années 1920 qu'il s'agissait d'un résidu d'une supernova, grâce à des observations qui montraient qu'elle changeait au cours du temps et qu'elle était en train de s'étendre. Et ce n'était pas n'importe quelle supernova. Sa position dans le ciel correspondait très bien à la supernova qui avait été observée par les astronomes chinois durant plusieurs mois en 1054. Le taux d'expansion de la nébuleuse qui avait été mesuré donnait aussi un âge approximatif de 900 ans. C'était en 1949 qu'une émission radio fut détectée pour la première fois en provenance de la nébuleuse du Crabe par les astronomes Bolton, Stanley et Slee. Et cette source radio s'était révélée la plus intense source radio du ciel. Et dans un article qu'ils avaient publié en juillet 1965, Ewish et son étudiant nigérian Samuel Okoye, qui avait soutenu sa thèse juste au moment où Jocelyn arrivait à Cambridge, avaient montré, grâce à des observations avec un interféromètre, que la source radio de la nébuleuse du crabe avait une dimension angulaire extrêmement petite, inférieure à 0,1 seconde d'arc. À partir de la distance de la nébuleuse qu'on estimait, ça voulait dire une dimension inférieure à 1 millième de parsec. Et puis récemment, aussi en 1963, des rayons X avaient été détectés provenant de la mystérieuse nébuleuse en forme de crustacé, grâce à des observations d'occultation lunaire qui avaient pu être effectuées à partir d'une fusée lancée à très haute altitude, là où il était seulement possible de détecter les rayonnements les plus énergétiques. Il était 17h42, ce 27 juillet, et la deuxième aiguille de l'enregistreur multibande qui traçait ce que l'IPSA détectait à la déclinaison de 22 degrés se mit à osciller très nettement. Jocelyne dit calmement « On voit la nébuleuse du crabe !»« Bravo !» dit Don. « Félicitations !» ajouta Robin. « Ça marche !»« Mais c'est à vous que je dois donner des félicitations, c'est grâce à vous si ça marche !»« Et du premier coup en plus !»« On a réussi à le faire !»« Merci, messieurs !» Jocelyne était à la fois joyeuse et soulagée. L'IPSA pouvait désormais être utilisé pour observer le ciel de l'hémisphère nord et produire des résultats scientifiques. Les quatre pistes, qui étaient enregistrées simultanément, correspondaient à quatre déclinaisons différentes. Les ascensions droites étaient scannées grâce à la rotation de la Terre, mais la plage de déclinaison était limitée à des valeurs comprises entre moins 7 degrés et plus 44 degrés. On pouvait laisser défiler l'enregistreur aussi longtemps qu'il y avait du papier et de l'encre disponibles. La plage de déclinaison était ainsi entièrement scannée en 4 jours. Ne restait plus ensuite qu'à analyser visuellement sur des dizaines, voire des centaines de mètres de papier, l'évolution du signal en fonction de l'ascension droite et de la déclinaison, la position céleste. En une journée sans interruption, l'enregistreur produisait 50 mètres d'enregistrement papier à analyser. Après quelques jours d'analyse visuelle, Jocelyne était arrivée à reconnaître les sources de scintillation et à les séparer des interférences. Le 6 août, alors qu'elle continuait à aider les gars le matin à Lord's Bridge pour la dernière rangée avant qu'il ne fasse trop chaud, et qu'elle retournait à Cavendish l'après-midi pour analyser ses enregistrements, Jocelyne remarqua la présence d'un signal étrange à l'ascension droite de 19h19 minutes et 22 degrés de déclinaison, qui formait une espèce de gribouillis sur la feuille, une forme qui ne ressemblait à rien de connu. Mais le lendemain et les jours suivants, à la même déclinaison, elle ne l'avait plus détecté. Ce signal ne ressemblait pas exactement à une source scintillante, mais pas non plus vraiment à une source artificielle, parasite, comme celle qu'elle pouvait voir tous les jours. Jocelyne alla rechercher les premiers enregistrements qu'elle avait obtenus au tout début du mois d'août, et en les scrutant attentivement, elle aperçut à nouveau ce signal à la même position, mais un peu plus faible. Et le signal semblait bien parcourir le ciel comme une source astrophysique qui transite devant le champ de vue du radiotélescope, et pas d'un signal d'interférence terrestre, qui serait toujours à la même position par rapport à la Terre, et qui donc ne transiterait pas. C'était une source qui paraissait très étrange, de par la forme du signal qu'elle produisait. Jocelyne repensa à ce que lui avait dit Stephen Hawking 2 ans auparavant, quand il lui avait parlé des signaux inattendus qu'elle pourrait peut-être détecter un jour avec son radiotélescope, et pourquoi pas de signaux provenant d'une civilisation extraterrestre. En attendant d'en savoir plus sur ce curieux signal, elle annota la feuille de l'enregistreur en écrivant LGM, point d'interrogation, l'acronyme de Little Green Man. Jocelyn en parla rapidement à Anthony Hewish. J'ai trouvé un signal atypique dans l'enregistrement du 6 août et qui était aussi visible le 2 et le 4 août, mais plus après le 6. La forme ne ressemble à rien, ça fait comme un gribouillis. C'est vraiment très curieux. Ça semble être ponctuel et ça transite. Tu peux me montrer l'enregistrement, s'il te plaît ? Jocelyn lui apporta les trois enregistrements sur lesquels apparaissait le petit gribouillis bizarre laissé par l'aiguille de l'enregistreur. C'est pas très joli quand même. Hein. Et tu dis que ça transite ? Oui. Je ne vois pas ce que ça pourrait être. Ça peut très bien être une interférence directe ou un écho. Mais ça suit la rotation de la Terre, donc c'est une source astrophysique lointaine, répondit Jocelyn. Mouais. On pourrait très bien imaginer que ça provienne d'un nouveau type d'objet, ou bien même que ce soit un signal artificiel d'une autre civilisation, rétorqua Jocelyn. N'allons pas trop vite quand même, hein, répondit Ewish. Ne nous emportons pas, hein. C'est peut-être quelque chose d'intéressant, mais c'est plus probablement quelque chose de très inintéressant. Cela dit, c'est vrai que la forme est singulière, on ne peut pas le nier. Tu peux te pencher sur ce signal si tu veux, je suis d'accord. Il est suffisamment bizarre pour qu'on s'y intéresse, mais pour mieux le caractériser, il faudrait un enregistreur plus rapide pour étaler ce gribouillis dans le temps. Ouais, il faudrait un enregistreur plus rapide, au moins trois fois plus rapide. Ça veut dire quoi le LGM que tu as écrit à côté, là ? Ça, c'est pour rire. Ça veut dire petits hommes verts. Et j'ai mis un point d'interrogation, hein, évidemment. Évidemment. Imaginez si c'était le cas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, dit Jocelyn. Si ce gribouillis était un appel à l'aide des petits hommes verts, demanda Ewish. Eh bien, je préfère ne pas penser à cette éventualité, parce que je ne sais absolument pas ce qu'il faudrait faire. J'imagine qu'il faudrait en parler à la reine. À la reine ? Bah, à qui d'autre, à part elle ? Jocelyn restait muette. Elle n'avait en vérité jamais vraiment réfléchi au comportement qu'il faudrait adopter si jamais il détectait véritablement un message extraterrestre. Faudrait-il en parler tout de suite à la communauté scientifique, aux militaires, à la reine, aux journaux ? Cela aurait de toute façon de très grandes conséquences au niveau mondial, continua Ewish. Contentons-nous de mieux caractériser ce gribouillis, on va vite comprendre que ce n'est qu'une interférence de plus qui nous joue des tours.